Alors là, on commence un plan lumière.
Oui, 57 secondes. Là, je suis en train de te prendre. J'étais un plan moyen.
Donc on a Romain Laguna dans l'image, assis au micro de la table de radio.
Et on attend un peu qu'il dise quelque chose parce qu'on ne va pas faire comme les frères Lumière, on va être dans le parlant.
J'attends que la réalisatrice me dirige.
Non, t'es dur là. On ne va pas faire comme les frères Lumière, on va faire du parlant. Parce qu'eux, c'était muet.
C'est long, 57 secondes ?
Oui, c'est long.
C'est très lent, hein, quand il ne se passe rien.
On voit quoi dans un visage muet, Isabelle Lafond ?
Ben là, en fait, je le vois mieux. En fait, tu vois, je te vois mieux quelque chose de toi quand je regarde l'image, enfin le cadre pour parler pompeusement, que quand je suis à côté de toi. Il y a quelque chose que je vois. Et je serais moins intimidée de te poser des questions si j'avais ce... en passant comme ça par l'image que si j'étais à côté de toi.
Ça y est, on a dépassé les 57 secondes.
Oui. C'est la protection. Hein. On ose plein de choses quand la caméra nous protège. Ça donne...
Toi, tu dis qu'elle protège la caméra ?
Ouais, bah, elle protège.
Attends, tu dis qu'elle protège pour celui qui filme ou pour celui qui est filmé ?
Ouais, pour celui qui filme, je pense. C'est une sorte de regard bis.
Et vous auriez envie de lui poser quelle question, Isabelle Lafond ?
Bah, j'ai envie de te poser la question, si ça t'embête pas, quels sont les films qui ont regardé ta vie ?
Waouh !
Non, mais j'ai essayé de la poser aux acteurs, ils n'ont pas répondu, donc là je.
Bah, s'il y en a un, je crois que c'est la seule fois où j'ai ressenti une expérience physique
voilà,
au cinéma.
Physique, c'est exactement
c'était
ça.
C'était en voyant Profession Reporter d'Antonioni. J'avais 18 ans, j'étais à la fac. C'était un des premiers films que je voyais en VO. Et moi, je me rappelle, j'étais arrivé en retard un peu, du coup je m'étais retrouvé au premier rang. Chose que j'aime pas trop, parce que normalement j'aime bien être plutôt au centre pour pouvoir avoir comme ça une vision d'ensemble.
Ouais.
Et là, immergé, perdu dans l'image, noyé et tout ça, et j'ai le souvenir de, il y a Jack Nicholson déjà, mais il y a surtout Maria Schneider. J'ai l'image de Maria Schneider à l'arrière de la décapotable, cheveux au vent. Et ce jour-là, je suis tombé amoureux, et ça m'était jamais arrivé. Et je me suis dit, le cinéma, c'est fou. Ça peut provoquer des sensations, physiques, viscérales. Et ça, je l'ai jamais retrouvé.
Tu l'as jamais retrouvé après avec les autres films.
Et pourtant, il y a tellement de films que j'aime et tout ça, mais ce sentiment-là d'être frappé dans le corps et tout, alors, on ne sait pas à quoi ça tient. Hein. C'était l'instant, c'était la magie de l'instant, je pense.
Est-ce que tu la ressens quand toi, tu tournes ? C'est-à-dire quand toi, tu fais un film, est-ce que toi, tu...
L'esprit de Maria...
enfin, est-ce que tu ressens cette sensation que tu as ressentie, tu vois, quand tu étais dans cette salle ?
Il y a deux questions.
Je te pose que des questions auxquelles je ne pourrais pas répondre.
Bah avec les acteurs, oui, clairement, je ressens des choses très fortes parce que dans le cinéma que j'essaye de faire, c'est vraiment, je suis accroché au personnage, au visage et dans la façon que j'ai de bosser avec les comédiens, je pense qu'il y a quelque chose de très instinctif physique.
On a largement dépassé les 57 secondes. Finalement, votre film pourrait durer toute l'heure, Isabelle Lafond.
Ah oui, poser des questions en plus à quelqu'un qui est réalisateur, ça me passionnerait. Et puis en plus, là, je ne me pose que des questions, évidemment, auxquelles je serais bien incapable de répondre, mais qui me...
Vous connaissez l'anecdote du premier plan
quand même,
des frères Lumière, l'entrée en gare de la Ciotat?
Non, je ne connais pas.
Bon. Donc les gens avaient payé leur petit ticket pour venir au cinéma, ils ne savaient pas trop à quoi s'attendre, et donc c'est simplement un train qui entre en gare.
Oui.
Et l'histoire raconte que le public a été pris de panique au moment où le train est arrivé, s'est levé, il y a eu une bousculade énorme, les gens sont sortis du cinéma et tout, ils étaient...
Parce qu'ils avaient l'impression que
ils étaient persuadés qu'ils allaient se faire écraser par le train, quoi, que le train allait sortir de l'écran et tout éclater, ouais.
Et il y a aussi un autre truc que j'aime bien, c'est par rapport à la... Tu sais, le plan de la sortie des usines, des usines lumière, en fait, tout le monde le regarde, mais ça a été retourné. En fait, donc, on dit que c'est un plan documentaire, mais on est déjà dans la fiction, parce qu'en fait, ils l'ont refait. Et du coup, les ouvrières et les ouvriers, ils ont changé, ils se sont bien habillés. Donc, en fait, ils ont été retournés parce qu'il n'y avait pas la porte se fermer au mauvais endroit, enfin, etc. Donc, d'accord. En fait, c'est un plan, on se regarde, c'est...
Mais ils sont revenus le lendemain ou ils ont demandé à tout le monde de re-rentrer et de ressortir ?
Alors, je ne sais pas si c'est le lendemain, parce que je me demande si ce n'est pas le lendemain, parce qu'en tout cas, elles ne sont pas habillées pareil. Tu vois ?
C'est le début de la fiction.
Oui.
Ouais, dans quel sens ça s'est fait, on ne sait pas.
On éteint la caméra ?
Oui, j'éteins.
Merci. Il est 23h et on a besoin d'inouï, une chose pas vue, pas entendue. On n'a jamais regardé ce qui nous entourait, 57 secondes sans bouger et sans parler. Alors qu'une image peut renverser la façon qu'on a de voir les choses, comme on dit, nous faire parler différemment. 57 secondes, ce sont les premiers plans fixes des Frères Lumière. Isabelle Lafont s'est créée, elle, une première fois. Pour la première fois, elle n'a pas de texte. Elle n'a que des vies à mettre sur scène, des vies et des corps. Ils sont 5, ils vont au même centre social, ils vont proposer un atelier. Il n'y aura pas d'animateur, mais des films à voir et on parlera. Tout s'écrit à partir d'improvisation. Isabelle Lafont cherche à faire émerger la vie, et d'ailleurs son personnage Fantime aimerait savoir d'où viennent les choses. Ils se réunissent chaque jeudi et soudain l'un d'entre eux dit « On se parlait comme on ne se parle pas d'habitude ». Isabelle Lafont cite Georges Didier Huberman « Il faut pour voir les Lucioles tout d'abord les aimer ». Il faut la faculté de faire apparaître des parcelles d'humanité. Il faut donc des premières fois. Dans le film de Romain Laguna, Les météorites, Nina a 16 ans. Elle voit passer une météorite dans le ciel comme si elle voyait passer sa nouvelle vie. Elle va provoquer des changements. Le film navigue entre l'infiniment grand, ce qui se trame dans le ciel, et le détail, sur terre, les sentiments. L'image du ciel la fascine. La rencontre avec les autres la fascine. Tout alors mérite plus de 57 secondes. Il y aura donc la metteur en scène Isabelle Lafont. Son spectacle s'appelle Vue Lumière. Il s'installe au Théâtre de la Colline à Paris jusqu'au 5 juin. Il y aura le réalisateur Romain Laguna. Son premier long métrage, Les météorites, est en salle depuis le 8 mai. Et à la musique en studio, Alma Forer, son EP Solstice est sorti le 26 avril. Il y a une édition vinyle. Elle sera en concert le 28 mai au 3 Baudets à Paris, avant le 11 juillet au Chantier des Francopholies à La Rochelle. C'est une vie d'artiste sur France Culture, un samedi soir qui commence par la voix de Georges Méliès.
M. Méliès, quel fut votre premier contact avec l'invention des Frères Lumière?
Mon premier contact? Ah mon Dieu, c'est bien difficile de vous le dire exactement. Le contact réel a été établi entre moi et M. Lumière par suite de circonstances tout à fait fortuites. Je le rencontrais dans l'escalier du théâtre, dont j'étais directeur à ce moment-là, au Théâtre des Roudins. Il venait voir au-dessus de chez nous un photographe, M. Clément Maurice, qui fut plus tard son opérateur. Et comme il me connaissait de vue, il me dit « Dites donc, M. Méliès, vous qui avez l'habitude dans vos trucs d'étonner quelque peu votre public, je serais bien heureux de vous faire venir ce soir au Grand Café. Pourquoi ?» lui dis-je. « Mais parce que vous allez voir quelque chose qui peut-être vous épatera vous-même. »
Vous y êtes allé ? Mais vous avez été épaté ?
Naturellement, tout ce qui a plus épaté. Au début, quand j'ai vu son appareil, n'est-ce pas, projeter des photographies immobiles en commençant, comme nous en faisions chez nous dans nos projections habituelles, que nous faisions à la fin de notre spectacle, j'ai dit comment on me dérange pour voir des projections. Il y a près de 20 ans que j'en fais, ça n'a rien d'extraordinaire. Il avait fait exprès de laisser son image immobile pendant quelques temps. Quand tout à coup, je vis dans la sortie des ateliers lumière, les personnages se mettent en mouvement, venir vers nous. Quelques minutes après, un train s'est lancé. Et prêt à traverser la toile, se précipiter dans l'auditoire, nous étions tous, je dois le dire, absolument stupéfaits, vous comprenez bien.
Et vous avez tout de suite pensé à votre public.
Oh, mais pensez donc, immédiatement, j'ai dit, voilà mon affaire, un truc extraordinaire.
Isabelle Lafont, on a tenté une vue lumière pour voir l'émission, un plan sur Romain Laguna. La vue lumière, c'est 57 secondes, un sujet unique. Oui. Pourquoi le spectacle, il s'appelle Vue Lumière, du nom de ses premiers films de l'histoire du cinéma? Pourquoi vous avez pensé à ces films-là, ces images-là, pour débuter?
D'abord, quand on trouve un titre, on n'a heureusement pas fait, on n'est pas encore allé vraiment dans la matière, mais j'avais l'impression que d'abord, c'était la première fois que je m'attaquais à quelque chose où il n'y avait pas d'œuvre, comme on dit bêtement, de grande œuvre auparavant, puisque j'ai toujours travaillé sur des textes et que là, j'avais envie de partir d'un thème où il y a plusieurs années, j'avais eu l'envie de faire un film à propos de ce thème. Et il y avait quelque chose aussi de ces gens qui se réunissent dans un atelier, dans un centre social, sans animateur, pour apprendre par eux-mêmes, avec le cinéma, en se projetant des films, en discutant bon an, mal an. Il y avait aussi quelque chose des débuts. Et j'ai eu l'impression, en voyant les Vues Lumière, que c'est vrai que c'est le germe de quelque chose quand même. C'est-à-dire qu'un plan fixe, une contrainte de temps, un point fixe et une caméra tout d'un coup qui pèse 5 kilos, qui, je ne sais pas si elle projette, elle enregistre, je ne sais pas si elle pouvait développer cette caméra, je ne sais pas très bien, mais enfin tout d'un coup il y a quelque chose du monde qui va changer quand même, parce que tout d'un coup quelqu'un est ici et peut aller à Moscou et ramener des images de là-bas. Donc il y avait comme une sorte de parenté avec ces gens-là. Après, est-ce que j'ai réussi, et je ne pense pas, à pousser le point de départ jusqu'au bout, non. Mais voilà, c'était un peu l'idée d'une vue lumière, oui.
C'est aussi des questions, parce que quand là, vous cherchiez à faire un petit film de Romain Laguna, tout de suite, les questions, c'est où je me place, ce que vous en parliez entre vous avant le début de l'émission.
Ouais.
Qu'est-ce que je filme et donc à quoi je renonce? Qu'est-ce que je filme pas? La question du hors-champ, est-ce que ces questions-là, puisque vous alliez tout écrire à partir de rien, c'était déjà au début aussi du projet. Qu'est-ce qu'on va montrer? Qui? Qu'est-ce qu'on va pas montrer? Qu'est-ce qu'on dira pas?
C'est là probablement où je suis pas fortiche, c'est que je dis n'importe quoi, mais si j'avais fait un film, j'aurais pas du tout montré les réunions. J'aurais laissé les réunions qu'ils ont faites en hors champ, j'aurais montré juste les à côté des réunions. Au théâtre, c'était un peu compliqué. En fait, le théâtre posait d'autres problèmes. Et je me suis aperçue un peu naïvement que le hors champ du cinéma et le hors champ du théâtre, c'est pas la même chose. Et en même temps, c'est vrai que quand je fais du théâtre, je pense beaucoup au cinéma. Où je mets ma caméra? Est-ce que c'est un gros plan? Qu'est-ce que je garde? Qu'est-ce que je mets en hors champ? Mais elle se pose toujours la question. C'est un projet sur lequel il faut venir et revenir, dans le sens où je pense pas, et heureusement, on l'aura pas du premier coup. Heureusement. C'est-à-dire que les représentations qui vont commencer cette semaine, heureusement, le spectacle ne sera pas là. Autrement, ce serait un peu triste, ce serait une boîte de conserve. Et donc, probablement, faudra se poser plus la question du hors-champ, je crois, oui.
Et cet atelier qui se monte dans ce centre social, donc il y a 4 femmes, 1 homme, qui vont en faire partie, mais au départ, il y a deux des personnages qui écrivent une petite affichette, qui ont l'idée de cet atelier. Et déjà, se poser la question de comment on le présente, l'atelier. Est-ce que c'est l'école buissonnière? Il y a une petite discussion autour de ce terme-là, parce que est-ce qu'on a envie d'écrire école? Est-ce que c'est une école s'il n'y a pas de professeur? Et pourquoi le mot autonome est si important pour ces personnages-là?
Parce que dans un centre social, c'est une maison de quartier, c'est un endroit très ouvert, surtout par exemple celui de la 20e chaise dont je suis partie. Mais les ateliers se font avec des animateurs qui sont soit, et de plus en plus rarement malheureusement, qui sont souvent des bénévoles, mais soit payés, soit pas payés. Et donc il y a toujours quelqu'un qui guide, qui dit voilà, on va projeter ça, ou on va faire un débat sûr, ou bien si on fait un atelier informatique, on va faire ça. Là, il n'y a pas, d'où le bordel. Je veux dire, c'est tout le monde qui doit s'organiser de la part de gens qui ne sont pas des cinéphiles. Il y a une mécanicienne, quelqu'un à la poste, une étrangère qui l'a garde des enfants, mais qui à l'origine est à la fac de Téhéran, un veilleur de nuit, et Georges qui travaille au Jardin de Paris. Donc il y avait l'idée aussi, comment parler du cinéma quand on est a priori pas cinéphile, quand on a Mais c'est pour moi la même chose, hein. Je veux dire, les débats que j'imagine que tu vas avoir après ton film, peu importe qu'on soit cinéphile ou pas, je veux dire, les débats de spectateurs. Mais effectivement, ce n'est pas des gens qui ont l'habitude de parler, en tout cas.
Il y en a une, Esther, qui pose beaucoup de questions. Qui dirige? Est-ce qu'on décide ensemble? Est-ce qu'on peut venir si on n'a que des questions?
Esther, elle est chiante, hein, disons-le franchement. Mais oui, c'est vrai, elle a raison. Enfin, je veux dire, elle a... Après, c'est vrai que je... Oui, bien sûr, vous pouvez venir, même si vous n'avez que des questions. Mais c'est quand même tous les gens qui sont venus, et c'est bien le problème qui va se poser à la fin. Qui est venu dans cet atelier? Qu'il y a des gens qui n'osent pas franchir la porte de cet atelier. C'est que c'est des autodidactes. C'est-à-dire que c'est des gens qui ont envie de bouffer de la culture et qui se la font tout seuls et donc qui se réunissent. C'est-à-dire qu'il y a d'autres gens du centre social, du CS, qui ne viennent pas. Et c'est dommage.
Et il y a cette question aussi, très rapidement, est-ce qu'on va fabriquer quelque chose ou est-ce que l'atelier, c'est ça la chose qu'on est en train de faire et de vivre, qui est importante?
Oui, ça c'est Georges qui a toujours des formules un peu étranges et faudrait lui téléphoner pour lui demander, Georges qui est...
Est-ce qu'on a besoin d'un résultat? Est-ce qu'on a besoin par exemple de faire un film dans cet atelier? Ça se pose comme question. Ou est-ce, oui, est-ce que la parole c'est déjà quelque, oui, chose?
Eh bien ils ne sont pas trop d'accord, mais en fait le film, Georges l'a fait ce matin. Elle l'a fait ce matin avec nous au Père Lachaise. Georges, elle a besoin de filmer et en amateur, hein. Pourquoi pas? Après, c'est pas son métier, mais c'est quelque chose où elle a besoin d'essayer de voir pourquoi un plan marche, un plan ne marche pas, etc. On aurait pu sans. Effectivement, il n'y a pas besoin de résultats.
C'est une pièce d'un poète sonore qui s'appelle Brandon Labelle, Isabelle Lafont. Comment ça naît le langage quand on n'a pas de texte, justement, quand on improvise? Comment les mots ils arrivent? Comment on organise tout ça? Comment on fixe ensuite les choses qu'on a envie de garder, qui ont émergé? Comment ça s'est passé, ce travail-là, qui était nouveau?
En fait, j'avais donné un thème, c'est-à-dire que j'avais donné une histoire, comme si c'était un scénario. Et ensuite, donc, l'histoire de deux personnes qui lancent un atelier dans un centre social, la 20e chaise, et on n'est que cinq qui viennent. Et ce qui était important, ce qui me touchait, moi, c'était que les personnages soient très précis, très crédibles, j'allais dire bêtement à l'anglaise, comme les Anglais savent faire dans leurs films, c'est-à-dire des personnages très... Je sais pas comment on peut avoir. Je devrais pas dire à l'anglaise parce qu'il y a plein de à la russe, à la polonaise, à la. Je sais pas pourquoi je dis pas à la française. Et puis il y avait aussi.
Le vôtre, c'est Fantine, c'est une mécanicienne.
Oui.
Et comment vous l'avez travaillé? Vous êtes.
Fantine, j'ai travaillé. J'ai rencontré une femme qui s'appelle Muriel, qui est patronne et mécanicienne dans un garage. Muriel, outre l'estime et la richesse de Muriel, je lui ai posé des questions et elle m'a un peu expliqué et montré et du coup ça m'a permis de m'instruire. Et Muriel, en fait, est passionnée de philo, de 10 000 choses. C'est-à-dire que Muriel a tout de suite déjoué tous les principes qu'on pouvait avoir. Mécanicienne, c'est pas seulement être la manuelle de service, c'est aussi que le soir, elle est passionnée de philo, de tas de choses, tas de choses. Mais c'était important de rencontrer quelqu'un qui me parle réellement des moteurs, que être mécanicien, ça n'a rien de rock'n'roll, c'est la crasse, en même temps, c'est physiquement les épaules, etc.
Vous citez Isabelle Lafont, Philippe Cobert qui dit la fiction est arrivée par le corps. Est-ce que ces personnages, ils sont arrivés par le corps?
Ça, je crois que c'est chacun. Je crois que c'est chacun. Moi, c'est vrai que
j'avais besoin. C'est vrai que Fantine, cette mécanicienne, on la sent dans votre corps. Tout à coup, les choses se modifient et
Ouais, parce que je suis une copieuse, hein, parce que je copie, je mélange, mais je devrais pas le dire, je mélange des bouts d'un personnage que j'adore, qui est Columbo, puis d'un Vogue dans Columbo, que je pense à Muriel, qui est pas du tout ça, que d'avoir enregistré Muriel, après elle est ça et pas ça, moi je copie, et puis j'aime bien rencontrer des gens dans la vraie vie et de saisir un détail, et puis de vivre tout le temps avec, quoi, tout le temps, je pense Fantine, elle ferait ça. Bon, c'est vrai que maintenant, après c'est vrai, moi j'aime beaucoup les voitures, pour de vrai.
Mais c'est vrai que elle aussi, elle répète à tout le monde, il y a pas marqué tournevis sur mon front, et que dès qu'il y a un problème photocopieuse ou de, on demande à elle, alors que elle ne rêve que.
Mais Muriel, elle me raconte, hein, je veux dire, Muriel, elle est passionnée de photos. Si elle m'entendait, je crois qu'elle me tuerait là. Elle est passionnée de photos, elle est passionnée de philo, passionnée de cinéma, et en gros, elle est à Montreuil, et donc il y a pas mal de gens du cinéma, mais dès qu'il y a une conversation, elle se sent comme exclue, alors qu'elle est complètement dans quelque chose qui pourrait se partager. Elle est aussi, elle est pas que, mais je veux dire, c'est vrai qu'il faut faire, on peut avoir tendance à assimiler quelqu'un à son métier, à sa classe sociale. Bon, là, j'enfonce des gros, gros panneaux. Mais c'était l'idée aussi qu'ils ont envie d'autre chose. Et puis moi, je pense que si on se parle, enfin, s'il y a un rapport à la parole et pas à la langue de bois, il y a quelque chose qui, bien sûr, est possible. Autrement, faut pas que j'ai vécu quelque chose pour parler à quelqu'un. Autrement, c'est mort. Après, bien sûr qu'il y a des... Socialement, ils n'ont pas fait des études.
Et dans la pièce Vue Lumière, Isabelle Lafont, on parle de fiction, des films qu'on va voir dans l'atelier, aussi beaucoup de documentaires, et ils se posent des questions sur la vérité, le mensonge, où ça se place.
Ça se passe aussi, c'est Georges, Johanna qui nous a orientés vers le... C'est aussi, chaque acteur a fait son texte. Moi, j'ai rien écrit, j'ai bidouillé, j'ai monté, mais... alors parfois, il y a des choses où j'ai envie de dire, mais pourquoi il dit ça, j'aurais bien... Mais il faut jouer le jeu. C'est marqué écriture collective, donc chaque acteur a fait son texte. Moi, j'ai, comme d'habitude, j'ai fait du Columbo, quoi, je veux dire. Mais papa, il est génial dans Columbo. J'ai revu les Columbo. On sait tout d'avance, quoi. On sait tout d'avance et après, ça se reconstitue.
Qui est derrière Truffaut, derrière Godard, etc. Jean Renoir. Surtout Jean Renoir. Jean Renoir, que d'ailleurs, j'ai rencontré il y a 5 ans à Los Angeles. Ça a été une rencontre vraiment inoubliable. Je l'avais appelé parce que, pour moi, la règle du jeu, c'est le numéro 1, c'est-à-dire c'est le film que j'aime le plus dans l'histoire du cinéma. Et j'étais à Los Angeles et je me suis fait courage et je l'ai appelé. Tout de suite, il m'a reçu. Moi, j'étais excité, je posais des questions. Lui, il s'excitait à répondre, il voyait mon excitation. Et à la fin, il m'a dit une chose qui est devenue un peu une règle. Il m'a dit, il faut toujours, quand on fait un film, laisser une porte ouverte sur le plateau. Parce que n'importe qui peut rentrer, n'importe quoi peut arriver, la caméra doit être prête à le filmer. Et je crois que c'est vraiment l'essence du cinéma. La porte ouverte, c'est vraiment l'essence du cinéma. C'est comme ça que j'ai toujours travaillé, c'est comme ça que c'est seulement comme ça que je peux travailler, c'est-à-dire avec l'improvisation et avec l'inattendu.
C'était la voix de Bertolucci qui parle de Jean Renoir. Isabelle Lafont, est-ce que la porte ouverte, ça vous parle?
Oui, ça m'émeut.
Est-ce que vous aimez la laisser ouverte, la porte?
Oui, toujours. J'aimerais que ce spectacle y ait une grosse porte ouverte à l'improvisation, à l'incertain, à quelque chose qui est à la lisière du théâtre, que ce soit pas fini. Mais pour ça, il faut être très chargé, parce qu'autrement, c'est chiant. Et c'est magnifique ce qu'il dit sur Jean Renoir. Mais la règle du jeu, qu'arrête dans la règle du jeu. Oh mon chou, ma chère. C'est génial. C'est très beau, la première émotion de Jean Renoir, quand il parle de la première émotion au théâtre, qu'il a fait pipi dans sa culotte. C'est très très beau. Et il dit qu'il aimerait bien que les spectateurs, devant ses films, fassent pipi dans leur culotte. tellement ils sont pris par cette chose physique. Non, non, c'est beau. Puis l'espoir de Renoir que tout le monde peut se parler, quoi, toujours. Toujours.
Mm. Et dans la pièce Vue Lumière, dans les débats qu'ils ont entre eux, quand ils parlent de fiction, documentaire, à un moment donné, ils disent « mais il ne faut pas faire une histoire, il ne faut pas une fiction, il faut la vie ». Parfois, on est touché par des choses qu'on n'a pas envie de filmer. Est-ce que vous diriez aussi que dans cette pièce, Isabelle Lafond, il y a quelque chose de documentaire, quelque chose qui se rapproche de... Enfin, qui est entre les deux. Et c'est vrai que quand on regarde, en tout cas, j'ai eu la chance d'assister à une répétition, on ne sait plus où on est parfois. On sait qu'on est dans une fiction, mais il y a quelque chose de très réel.
En même temps, c'est une chose qui se fabrique depuis... C'est pas vrai. C'est pas vrai. Puis on est payé, on a répété. Mais j'aimerais bien que ce qui soit vrai, c'est qu'on essaye vraiment devant vous. C'est-à-dire que c'est qu'il n'y ait pas, je ne sais pas comment trouver cette idée, qu'il n'y ait pas une représentation et que vendredi soit la première. Mais qu'on arrive à être dans cette posture d'acteur où moi je me dis, après moi j'adore faire ça, je me dis si je commence par exemple l'entrée de Fantine et que ça ne va pas, je dis je recommence.
Ça vous est déjà arrivé de faire ça au théâtre? De dire je recommence?
De dire je recommence, non, mais de faire un truc d'impro, ça m'est arrivé dans Bérénice en janvier, oui, d'être à l'impro. Parce que j'arrivais à la fin et j'improvisais en dehors du texte de Racine. Donc c'est la première fois que j'improvisais suivant la météo, suivant des choses. Mais de dire je recommence, non. Mais j'aimerais bien essayer là.
Romain Laguna, dans Les Météorites, on va en parler, votre premier long métrage. Vous avez choisi des comédiens qui ne sont pas forcément professionnels. Est-ce que c'était une façon de laisser la porte ouverte, comme dit Renoir, ou en tout cas à l'inattendu, à des choses pas prévues? À des premières fois pour vous?
Oui, déjà moi de base j'aime beaucoup travailler avec des non-professionnels. Après pour ce film-là en particulier, vu que c'est un film sur des jeunes dans le sud de la France, qui ont tous entre 15 et 17 ans, l'idée d'acteur professionnel à cet âge-là, ça avait pas trop de sens pour moi. Quoi. Je crois qu'on a 15 ans, 16 ans, qu'est-ce que ça serait être acteur professionnel, à moins d'avoir tourné dans des publicités depuis son plus tendre âge Et voilà, comme j'avais cette volonté de parler aussi d'une première fois, qui est liée à cet âge-là, ça me semblait évident qu'il fallait que ce soit des visages inconnus et que ça puisse résonner comme ça, ouais.
Et qu'est-ce que ça a changé pour vous, dans la façon de préparer les choses? Est-ce que certaines choses inattendues ont émergé parce que, justement...
Ah oui, clairement. Ben, j'ai bossé pendant presque 3 ans sur le scénario. Et ce qu'il en reste au final, on va dire, c'est l'intention première, mais après tout a été bouleversé sur le tournage. Et bah, c'est s'adapter ou disparaître avec des non-professionnels. Quoi, vraiment, tout mon travail, ça a été de... Bah, une fois qu'on a eu les comédiens, le casting a duré presque un an. Vraiment, on allait dans tous les lycées, les fêtes de village, les bars, dans la rue, quoi, avec nos petits tracts et tout. Et à chaque fois que je trouvais un personnage, après moi j'organisais des répétitions beaucoup, mais jamais sur le texte ou sur le scénario. C'était plus des... On se donnait rendez-vous dans un parc et je leur donnais des petits sujets très simples, quoi. Et je les écoutais parler. Voilà. Et c'était d'une part pour que eux puissent s'habituer à la caméra, parce que effectivement d'être scruté par un œil comme ça à 20 cm du visage, qu'on n'a pas l'habitude... Quoi, comment être naturel et oublier la caméra. Donc tout le travail, ça a été de les habituer à ce regard-là. Et puis moi, je me suis nourri d'eux énormément. Énormément.
Quand je ne dors pas, la nuit se traîne, la nuit n'en finit plus. Et j'attends que quelque chose vienne, mais je ne sais qui, je ne sais quoi. J'ai envie d'aimer, j'ai envie de vivre, malgré le vide de tout ce temps passé, de tout ce temps gâché. Terre, qui, comme moi, ce soir sont solitaires. C'est triste à mourir, quel monde insensé. Oh. danser. J'allume une cigarette. J'ai des idées noires en tête.
Isabelle Lafont, est-ce que vous pensez Fantine là en écoutant Petula Clark?
Oui.
Parce que c'est ce qu'elle écoute dans Vue Lumière, dans la pièce. Qu'est-ce qu'elle ressent quand elle écoute ça?
Elle trouve ça beau, comme elle trouve beau Rimbaud et comme elle trouve beau Bach.
Il y a une peur de tous à la fin, c'est justement on n'est que cinq dans cet atelier.
Ça va s'arrêter.
C'est que ça s'arrête.
Mais du coup, peut-être qu'on projettera un petit film de Georges.
Et qu'est-ce qui se passe si ça s'arrête pour ces personnages-là?
Ça ne s'arrêtera pas, ça va continuer.
Il n'y a qu'un seul homme et quatre femmes, et il est assez touchant, Martin, le veilleur de nuit. Il a toujours un carnet de notes.
Oui.
Et on sent que lui, la parole dans sa vie, ce n'était pas forcément la chose la plus évidente. Et que ça a modifié considérablement sa façon d'être en relation avec les autres. C'est aussi quelque chose de plus grand que moi, pour chacun.
C'est nous et plus que nous, peut-être. C'est ce que... Je ne sais plus quel... Je crois que c'est Jean-Louis Comolli qui a travaillé beaucoup le documentaire et qui est théoricien, qui disait que le documentaire, c'est comme... C'est nous et plus que nous, enfin, quand il filmait des gens. Il a une très belle phrase dont je ne me souviens pas, sur l'idée que les amateurs, ça n'a pas de gants quand ça joue, que ça prend les choses à main nue, que ça ose se brûler aux choses.
Le nouvel EP d'Alma Forer s'appelle Solstice et c'est aussi un mouvement du ciel. Un grand souffle onirique. Quatre titres qui mêlent fantastique et poème. Il y a Song d'une nuit d'été, ce sera le premier morceau qui dit « Chante sur la lune, fait tomber l'enclume ». Ce sont des histoires d'émancipation.
Je suis Alma Forer, je suis accompagnée de Vincent David, Léa Worms et Vincent Pedretti. Nous sommes en studio avec Isabelle Lafont et Romain Laguna. Vous écoutez Une vie d'artiste d'Aurélie Charron sur France Culture et on est ensemble jusqu'à minuit.
Sans brouillon, sans bassesse, sans confine. chante sous les étoiles et fait tomber le voile qui nous sert.
Venir à l'armée avec toi, ce serait marrant.
Pour faire quoi?
Bah, je sais pas, je pourrais être coiffeuse.
Tu tombes des crânes à la chaîne?
Oui, je vous tomberai tous comme des moutons, là. Bah.
C'est qui le gars?
Quel gars?
Bon, pas genre, tout le monde t'a vu, Emina.
Arrête de bouger.
C'était qui?
Personne.
Tu tournes avec des Arabes maintenant, toi?
Et toi, t'es comme tes potes, ça y est, t'es raciste?
Mais go.
Allez, baisse la tête, là, j'ai presque
arrête de faire la maline, écoute-moi.
Baisse la tête!
Écoute-moi. Traîne pas avec n'importe qui, c'est tout ce que je dis, tu te rends pas compte. Tu m'écoutes, là? Oh, arrête ton... Oui. Oh, écoute-moi.
Oui, ça tombe bien, j'arrête, j'ai fini.
Mais moi, j'ai pas fini, écoute-moi pour de vrai, 30 secondes, là. Arrête de dire oui.
C'est bon.
Ah, tu crois que t'es une grande, mais t'es une gamine, hein, Nina? Oublie pas ça, hein.
On entendait de la voix de Nina dans le film Les Météorites, Romain Laguna. Le décor de ce premier film, c'est votre décor d'enfance.
Ouais.
C'est la région où vous avez grandi. Pourquoi vous êtes retourné là-bas?
Je crois que c'est un film qui parle de l'enfance. Et il y avait une évidence à y retourner. Et puis c'était bien d'avoir l'aide de la famille et des amis aussi. Sur ce projet-là, d'un point de vue plus pragmatique.
Pratique.
Ouais.
Mais ces décors, pourquoi ils vous intéressaient pour votre cinéma? Le paysage, la ville, qu'est-ce qui vous donnait envie d'en faire le décor d'un film?
Je crois au tout début du projet, avant même qu'il y ait l'envie ou une idée d'histoire, j'avais l'image d'une jeune fille qui marchait dans les vignes au pied du Caroux. Donc il y a la montagne, alors c'est un tout petit bout de montagne, le sommet le plus haut est à 1100 mètres je crois, mais c'est notre montagne occitane, on va dire, Caroux qui veut dire caillou en occitan. Et il y avait quelque chose, c'est toujours assez compliqué de dire de quoi partent les films, mais je crois que dans mon cas c'est souvent l'envie d'un comédien ou d'un paysage ou d'une sensation, d'une atmosphère et que l'histoire arrive après, ouais.
C'est quoi le mythe du mont Caroux, puisque vous en parlez?
Alors, il y a fort fort longtemps, quand le monde était encore peuplé de titans, apparemment, donc, deux d'entre eux vivaient dans l'arrière-pays bitérois, un couple d'amoureux. La fille s'appelait Sébéna et l'homme Réa. Et donc, l'histoire raconte que Zeus aurait appelé Réa pour mener une de ses guerres, je ne sais plus laquelle, qu'il aurait refusé et que de colère, Zeus les aurait pétrifiés. Voilà, d'où en fait un des sommets du Caroux qui s'appelle la femme allongée, en référence au corps de Sébéna, et Réa, lui, serait dans les gorges de l'Éric.
Alors ce mythe, c'est pas présent dans le film, mais vous l'avez raconté.
Non, mais c'est quelque chose vraiment qui est à la base et qui m'a travaillé comme ça en arrière-plan, on va dire, mais dans l'idée de rejouer un peu cette histoire d'amour, mais de façon beaucoup plus triviale et réaliste dans les quartiers de Béziers.
Ouais. On suit Nina, donc on a entendu sa voix. Elle va rencontrer Mourad et tomber amoureuse. Et puis après, ça va pas être si simple que ça. Mais justement, Nina, elle a pas de limites, elle a pas de frontières, elle voit pas de problème de rencontrer.
Je voulais parler de ces communautés-là, mais sans que comment dire, dans le film, c'est jamais un souci en fait. Et ça, c'est Nina qui le véhicule, c'est-à-dire leur histoire d'amour est pas impossible parce que lui est maghrébin, elle vient d'un petit village et tout. C'est jamais ça le problème. C'est une histoire d'amour qui foire, mais comme n'importe quelle autre histoire d'amour en fait. Voilà, et ça c'était quelque chose d'important à dire pour moi, ouais, de pas être dans une sorte de manichéisme non plus.
D'ailleurs, c'est presque le seul moment du film où on sent que c'est des mondes séparés, mais elle traverse tout sans souci. Et là, on a l'impression que c'est un film très réaliste parce qu'il y a cette histoire d'amour et puis un peu d'initiation de Nina. Mais très vite dans le film, il y a aussi quelque chose de très onirique, de presque fantastique, parce que Nina, elle aperçoit une météorite qui passe dans le ciel. Et pendant longtemps, on ne sait pas vraiment ce qui s'est passé, mais elle regarde des vidéos YouTube pour voir l'histoire des météorites, qu'est-ce qui peut se passer.
Météorite qui s'écrase dans le Caroux.
Voilà, qui s'écrase dans le mont Caroux. Et donc elle est très intriguée par cette vision, et on a l'impression que cette vision lui donne la force aussi de se dire, mais en fait, il y a plus grand que nous, il y a quelque chose, tout est possible. En tout cas, c'est quelque chose qui déclenche chez elle un désir de réaliser tous ses désirs, justement.
Ça, je pense qu'elle ne se le dit pas tout de suite. En tout cas, ce qu'elle se dit, c'est qu'il va lui arriver quelque chose de fantastique.
C'est un signe.
Parce qu'elle a 16 ans, elle a arrêté l'école. Elle a un petit boulot d'été. En gros, elle fait la caisse dans un parc de dinosaures. Et voilà, donc sans idée ou envie de savoir ce qu'elle va faire l'année prochaine, ou ne serait-ce qu'à la rentrée.
Et ce lieu est assez extraordinaire aussi, ce parc de dinosaures. Je ne sais pas si vous aviez...
Le musée des dinosaures à Metz, pour la promo. Mais ce qui est fascinant, c'est que c'est un couple d'archéologues donc qui a créé ce parc, et ils l'ont construit sur un site archéologique. Vraiment de fou, ils ont retrouvé des œufs, des ossements de dinosaures et tout ça. Ils ont créé ce parc pour financer leurs fouilles. Et dans le film, on l'appelait le Dino Space, parce que c'était un peu plus marrant.
Donc il y a à la fois les dinosaures et ce signe, la météorite, qu'elle prend comme un signe.
Qu'elle prend comme un signe, ouais. Et le lendemain, justement, à son boulot, elle fait la rencontre de Morad, qui est le grand frère d'une de ses collègues de travail. Et elle peut pas s'empêcher d'y voir une collusion. Elle se dit, cette météorite, c'était le signe de cet amour de ma vie. Et c'est comme ça qu'elle se jette à corps perdu dans cette histoire.
On parlait du mont Caroux. La nature, elle est très très présente dans le film. Elle est très importante, en tout cas... La montagne, le ciel, est-ce que c'était une évidence pour vous qu'elle aurait cette place-là? C'est presque un personnage dans le film.
C'est jamais évident de dire dans quel ordre les choses se sont faites. Parce que je suis passé par tellement d'envies contradictoires et de désirs. Le scénario, je l'ai écrit pendant presque 4 ans en vrai. En tout le projet a mis 6 ans. Donc vraiment, entre le moment où j'ai posé la première ligne et ce qu'il y avait à la fin... La nature, c'est presque Zéa, la comédienne qui l'a amenée. C'est-à-dire que, à partir du moment où on l'a rencontrée, moi vraiment, j'ai eu un véritable coup de foudre pour elle, et le film s'est énormément resserré.
Et vous l'avez rencontrée quelques semaines avant le tournage?
Un mois et demi, ouais. Je sais que la veille du tournage, en rigolant, je lui ai dit qu'on allait faire un documentaire animalier sur elle. Et au final, c'est pas si loin que ça. Mais l'idée de la nature et tout, c'est quelque chose qui arrive plus tard, parce que dans les premières versions du scénario, j'étais très attaché justement au territoire, les bandes de gars, un peu du village et de la ville. Et au moment, tout le monde se cognait dessus à la fin, c'était un peu n'importe quoi et tout. Et c'est petit à petit que j'ai décidé d'épurer, ouais, de rester avec elle en fait, dans ce qu'elle traverse, décider dans sa tête, dans une sorte d'espace mental et de sa quête de sens.
Et le choix de l'image en 4 tiers, ça, c'est cette idée aussi de se rapprocher?
Ouais, je pense. Ça joue comme ça. Et c'est l'idée de la fascination pour les visages aussi. Et par exemple, Zéa, elle a une tache de naissance au coin de l'œil, une tache rouge, on dit une tache de vin. Et c'est quelque chose, par exemple, où j'aurais pu avoir l'idée d'écrire au scénario, de me dire... Parce qu'en fait, c'est vraiment comme si la météorite l'avait brûlée, quoi. Il y a un truc, elle est marquée physiquement. Mais non, ça, c'est le réel qui est arrivé, qui s'imposait comme ça.
Vous ne croyez pas qu'on puisse mourir d'amour? L'autre jour, vous m'avez dit que vous aviez aimé. Qu'est-ce que c'est que le monde, franchement? Vous devez mépriser les femmes qui vous prennent telles que vous êtes. Et qui chassent leur dernier amant pour vous attirer dans leurs bras avec les baisers d'un autre sur les lèvres.
Arrête, Suzanne, tu sais pas ton texte. T'es une orgueilleuse. Prends garde à toi.
Quoi?
T'as 16 ans et tu crois pas à l'amour.
Vous y croyez, vous?
Hé, hey, Suzanne, ton texte.
T'es bonne. Quoi? Quelle bonne place.
C'était un extrait d'À nos amours de Piala. Romain Laguna, est-ce que vous avez pensé à cette figure de Sandrine Bonnaire en écrivant?
Bah, c'est des talents. À partir du moment où on veut filmer une jeune fille de 16 ans, ouais. Mais Nina, elle croit en l'amour, ouais. Beaucoup. Beaucoup trop, ouais. Peut-être un peu naïvement, mais elle y croit très fort. Et moi, ce qui m'a vraiment marqué dans le film de Piala, c'est le moment où le père disparaît vers le deuxième tiers et justement l'espèce de vide et de gouffre que ça crée. Avant qu'à la fin, il reprenne sa place à table en tant que chef de foyer. Et je me rappelle vraiment ce sentiment que j'avais eu sur ce moment de disparition. Et c'est presque quelque chose que j'ai essayé d'appliquer à l'ensemble de mon film. C'est-à-dire finalement, la figure du père n'est pas là, n'existe pas, la question ne se pose pas. Et du coup, qu'est-ce que ça serait une jeune fille sans cette figure-là, en fait?
Il y a quelque chose que vous avez dit, Romain Laguna. C'est avoir compris avec ce premier film qu'il fallait faire davantage confiance à la fiction. Qu'est-ce que ça veut dire?
Ah non, mais ça c'est mes délires personnels. Après, c'est que moi j'ai l'impression qu'il faut que tout soit vrai, tout soit réel, que les comédiens y croient, que machin. Mais tout est faux, tout est reconstruit, tout est.
Ce dont on parlait avec Isabelle Lafont tout à l'heure.
Ouais, c'est...
Le vrai, le faux, le mensonge, la réalité.
Non, mais quand je disais faire confiance à la fiction, c'est plus dans le sens où j'aimerais. Pour mes prochains films, m'orienter plus vers le genre. Vraiment, littéralement, ouais. Retrouver mes premiers amours adolescents au cinéma.
Mais le fait d'avoir choisi des comédiens qui n'étaient pas forcément professionnels, pour lesquels c'était parfois le premier film, est-ce qu'il y avait quelque chose de presque documentaire qui vous intéressait ou qui se mélange, comme vous parlez de... cette volonté que tout soit vrai, est-ce que c'était aller capter quelque chose?
Ouais,
de...
ouais. Mais clairement, les jeunes que vous voyez dans le film, c'est pas leur prénom, mais c'est presque en vrai. Avec l'histoire qui vient par-dessus et qui en fait presque plus leur donne une protection eux-mêmes. C'est-à-dire que Zéa, donc qui incarne Nina, ça a été très compliqué au début de tournage parce qu'elle, donc, elle avait jamais connu le moindre de tournage ou même abordé le monde du cinéma. Et elle était dans la confusion permanente de est-ce que c'est moi, est-ce que c'est pas moi, est-ce que c'est Nina. Et en même temps, moi, je jouais beaucoup avec ça aussi, avec cette frontière de on va donner des choses de toi, mais t'inquiète pas, c'est le personnage, vas-y à fond, mais c'est quand même elle.
Dans le film, on a l'impression que, évidemment, Nina, elle a pas envie qu'il y ait des mondes ou des endroits qui lui soient interdits, donc elle essaie de dépasser toutes ses frontières. Et puis à la fin, elle escalade ce mont, ou en tout cas, elle part vraiment dans la nature, vérifier où se trouve la météorite.
Si elle existe.
Si elle existe déjà. Ou pas. Si elle s'est écrasée ou pas. Parce que pendant tout le film, elle a regardé ces fameuses vidéos, elle a essayé de chercher. Il y a toute cette histoire du ciel, un peu en parallèle de l'histoire de Nina. Et puis à un moment, ça va se retrouver. Ça termine presque sur une énigme et sur une vision très fantastique. Dans la montagne.
Ouais, mais ça, à la fois c'est très concret aussi. Elle trouve quelque chose pour elle-même.
Isabelle Lafont, il va exister le film La femme aux lèvres bleues?
J'aimerais beaucoup.
C'est le film que vous écriviez sur cette histoire que...
C'est le film que j'écris depuis 50 ans, oui, mais je n'arrive pas parce que ce n'est pas mon métier, mais j'avais réalisé il y a quelques années un moyen-métrage de fiction, maladroitement. Voilà, mais j'aimerais beaucoup, oui. Mais c'est très intimidant, parce qu'il y a des vrais réalisateurs qui sont très très bien, parce que, voilà. Mais j'aime beaucoup, beaucoup l'idée de l'équipe au cinéma, c'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui soit au cadre, quelqu'un qui soit au son, c'est-à-dire que j'ai l'impression, mais je ne sais pas, vous pouvez me... J'ai l'impression qu'il y a moins de solitude qu'au théâtre où tu es metteur en scène, mais là, c'est si le cadre
la
est...
La solitude, elle est dans l'écriture, mais
elle est dans l'écriture,
le fait de savoir que l'équipe va arriver, c'est quelque chose qui...
Après, quand tu me dis 6 ans ou 3 ans écrire un scénario, c'est impressionnant, mais si tu veux, si le chef-op n'est pas là, tu... Et qu'il n'entend pas quelque chose, ben, il n'y a rien, quoi. Et ça, ça me...
Parce qu'on parlait des acteurs, comme tu disais tout à l'heure, laisser la porte ouverte. Ouais. Mais j'ai l'impression, même avec l'équipe, c'est comme ça. C'est-à-dire, moi, je me dis, autant que le chef-op, que l'ingé son, que la costumière, c'est d'autres artistes, en fait, avec qui je travaille. Et,
ça, c'est super d'être
et
comme
qui
ça.
Vont... Je veux dire, si leur idée, elle est meilleure que la mienne, mais je prends tout. Je veux dire, ça fonctionne comme ça.
Ça, c'est super d'être
quoi.
Comme ça. C'est pas commun.
De toute façon, moi, je sais juste diriger des acteurs. Après, c'est tout ce que je sais faire. Heureusement que l'équipe est là.
Probablement plus, un peu plus.
Un peu plus. Ouais, ouais.
On va s'avancer jusqu'à minuit avec Alma Forer et un nouveau morceau. Celui-là s'appelle Conquistador.
Se désiste devant la foule anthropophage et les silhouettes. Je ne vois plus son visage. Tous les garçons sont des améthystes qui reflètent sur moi chacun de leurs vices. Et j'aime ça terriblement. Je ne vois plus passer le temps. J'ai le diable. C'est tous ces fondeurs, je suis d'accord. Je marche sur l'or d'une rêverie fabuleux décor. Rassasiez-moi.
Isabelle Lafont, vous écrivez quoi sur votre petite feuille pendant que Alma Forer chante?
Eh ben j'écris des choses pour demain, des petites choses que je ne voudrais pas oublier, qu'on essaye d'improviser. Puis quand je vous écoute, je me dis, tiens, c'est intéressant. Donc je vais essayer de voir si pour le spectacle, telle phrase ou telle proposition, ça peut marcher. Et puis, Non, puis des choses que vous avez dites aussi, tous les deux.
Et la première question que vous avez posée au début de l'émission à Romain Laguna, c'était quel film a regardé ta vie ? C'est quoi votre réponse à vous ?
Il y en a deux, c'est Le Messager de Lozé, l'histoire d'un petit garçon, je ne sais pas si tu l'as vu.
Non, je ne connais pas.
Un petit garçon qui vient d'une famille plus modeste et qui va passer des vacances dans une famille un peu riche avec son pote. Et il va devenir le messager entre deux personnes qui s'aiment, mais qui ne sont pas du même milieu. Et puis L'Enfant Sauvage de Truffaut. L'Enfant Sauvage, mais ça me... Oh, puis Crin Blanc. Oui.
Et Romain Laguna, les films qu'on fait, ils regardent aussi votre vie ? Très directement, le premier film que vous avez fait, Les Météorites, est-ce que vous diriez qu'il regarde votre vie à vous ? Est-ce qu'il lui a dit est-ce qu'il a dit quoi à votre vie d'aujourd'hui ?
Il a dit ça fait 6 ans, dépêche-toi de passer à la suite. Surtout.
Ouais. I'm getting closer to the facts. I've turned my back on silly dreams. Walking down that lonely road in my heavy load, I didn't bother to bring it when the sun shines down on me. I feel like I deserve it when the sun shines down. I'm hiding out where you can't see.
On sera parti du réel à regarder plus de 57 secondes pour changer notre façon de voir les choses et nous faire parler comme on ne s'est jamais parlé. Isabelle Lafont, le spectacle Vue Lumière, c'est au Théâtre de la Colline, à Paris, jusqu'au 5 juin. Romain Laguna, son premier film Les Météorites, est en salle depuis le 8 mai. Alma Forer, son EP s'appelle Solstice, il est sorti le 26 avril, il y a une édition vinyle, et elle sera en concert le 28 mai au Trois Baudets à Paris. Avant la nuit, je dis merci à Inès Duperron pour la préparation de l'émission. Merci à Lionel Quentin pour la réalisation et à la technique ce soir. Merci à Stéphane Desmonts et Déborah Dagobert. Vous écoutez France Culture, il est presque minuit. Dans quelques instants, ce sera demain, ce sera dimanche et ce sera l'heure des nuits.